Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Édité par Actes Sud Junior, voici un album documentaire à lire des 10-11 ans, consacré à une période peu souvent racontée dans nos manuels d'histoire, celle de l'esclavage aux États-Unis. Libre, Harriet Tubman, une héroïne américaine. C'est Fleur Dauget, journaliste et éthologue, qui signe le texte, et Olivier Charpentier qui l'illustre. Dans ce livre s'entrecroise un récit riche d'informations et le témoignage à la première personne d'une femme noire héroïque qui a su résister au point qu'elle est devenue outre-Atlantique une icône de la lutte anti-esclavagiste. Née aux alentours de 1820, Harriet mourra libre après avoir consacré sa vie à combattre l'esclavagisme et la ségrégation raciale. Je vis sur une plantation dans le Maryland, un état esclavagiste des États-Unis d'Amérique. Ma maman travaille dans la maison du maître, elle est cuisinière, tandis que mon père appartient à un autre maître, il est bûcheron. Tous les deux sont esclaves. Moi, je ne vais pas à l'école. Je ne sais ni lire ni écrire. Avant l'âge de 5 ans, je restais à la maison pour m'occuper de mon petit frère. Mais à cet âge-là, j'ai dû commencer à travailler. Un jour, alors que je jouais dans la cour, la maîtresse de ma mère est venue nous dire que quelqu'un m'avait loué et que je devais aller vivre chez une autre dame. Je ne voulais pas quitter ma mère, mais on m'a obligée. Vendue plusieurs fois au long de sa jeunesse, Harriet, qui travaille désormais dans une plantation, va prendre conscience qu'elle ne peut pas se résoudre à cette vie. « Je ne peux plus me résoudre à cette vie de servitude. » L'idée de la liberté est entrée en moi. Bien sûr que les dangers sont énormes, bien sûr que je risquerais ma vie si je fuyais. Mais à quoi bon vivre ainsi? Peut-être qu'ils me rattraperont, peut-être qu'ils me tueront. Mais au moment où je jetterai un baluchon sur mon dos et où je ferai un pas hors de la plantation, je serai libre, un être humain libre. C'est cela le plus important. Dès lors, la jeune femme sait qu'elle doit avant tout ne compter que sur elle-même pour fuir son maître avec succès. Septembre 1849. Ce soir, je suis partie. Seule. J'ai attendu que la nuit tombe et que l'étoile du nord s'éclaire dans le ciel. Comme son nom l'indique, elle montre toujours la direction du nord, sans faillir. C'est elle qui me guide vers la Pennsylvanie, un état où l'esclavage n'existe pas. Je marche dans le noir, aussi silencieusement que possible. Je me fonds dans la nuit et glisse petit à petit entre les doigts du maître, sans même qu'il s'en rende compte. On m'a indiqué la maison d'une famille Quaker. Je frappe à la porte et une femme me fait entrer aussitôt, comme si nous nous connaissions déjà. De forêt en marais, de maison en grange, Harriet poursuit son échappée et arrivera, 2 semaines plus tard, à Philadelphie, capitale de l'État de Pennsylvanie. De nombreux esclaves n'ont pas, comme Harriet, eu la chance d'être aidés pour réussir leur fuite et se sont fait rattraper par des chasseurs d'esclaves qui les ont ramenés de force à leur maître. Par solidarité, Harriet va devenir conductrice du chemin de fer clandestin. C'est une organisation qui mêle des esclaves fugitifs, des affranchis et des militants abolitionnistes. Ils empruntent des routes parallèles au-delà de la ligne de démarcation et cachent des esclaves en fuite, puis les guident vers les États libres au nord, où l'esclavage a été aboli. Mais les États du Sud veulent le maintenir, l'esclavage. Tout leur mode de vie en dépend. Alors, ils font sécession. Une dizaine d'entre eux fondent une alliance d'États confédérés jusqu'à ce que la guerre éclate en 1861. La guerre de sécession ne concerne pas que les Blancs. De nombreux esclaves fuyant les plantations du Sud ont rejoint le Nord pour combattre dans les rangs de l'Union. Aujourd'hui est un grand jour. Nous sommes le 2 juin 1863. Il est 3 heures du matin et je fais partie d'une expédition de 300 soldats afin de commander un raid le long de la rivière Cambari en Caroline du Sud. Nous occupons 3 canonnières et progressons le long de la rivière. Sur les rives, d'énormes plantations se dressent. Ce sont elles que nous allons attaquer. Notre but est d'enlever les mines que les confédérés ont placées dans la rivière, saisir les récoltes, libérer les esclaves et détruire les plantations. Une bonne manière d'infliger un coup dur aux esclavagistes. Les dessins au crayon gras laissent peu de place à la couleur. Les teintes sombres prédominent pour rendre la dureté des épreuves imposées aux esclaves depuis leur vente jusqu'à leur fuite. En 1865, la guerre se termine par la victoire de l'Union et même si tous les esclaves sont désormais libres, un nouveau système se met en place, principalement dans le Sud. La ségrégation raciale, qui instaure la séparation légale des Noirs et des Blancs dans la vie quotidienne. Je suis installée à Auburn, dans l'État de New York, et je continue à accueillir d'anciens esclaves qui peinent à trouver un travail et un toit. Moi-même, je suis très pauvre. Je cultive un jardin et je vends mes légumes pour gagner un peu d'argent. Mes amis abolitionnistes me soutiennent toujours et m'envoient de l'argent, mais il en faut toujours plus pour prendre soin des personnes dont je m'occupe et de mes vieux parents. Le portrait d'Harriet Tubman devait figurer sur le billet de $20 à partir de 2020, à l'initiative du président Barack Obama, mais le projet a été reporté par son successeur, Donald Trump, puis relancé par le président actuel. Il verra peut-être le jour en 2028. Chaque 10 mars, aux États-Unis, on célèbre le Harriet Tubman Day.
Je vais vous parler aujourd'hui d'un album de Alain Serre et Claude Dubois. Un album déjà ancien, puisqu'il date de 1990, mais que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert grâce à Florence, une lectrice de Lire et faire lire, et ça a été un ravissement. Alors je me suis dit que si moi je ne le connaissais pas, c'était peut-être aussi le cas de certains d'entre vous, et qu'il fallait absolument remédier à cet état de fait, et qu'il fallait absolument que tous les enfants puissent profiter de ce livre. Et bien sûr, en parler à Thème Radio était déjà un premier pas dans ce sens. Il s'agit donc de l'album « Puni Kajibi » de Alain Serre et Claude Dubois. Simon est un enfant pas toujours très sage, et ses parents ont pris l'habitude de le punir en l'enfermant dans un kajibi sombre et très encombré. Mais pour Simon, ce kajibi, c'est la caverne au trésor. Il laisse son imagination s'emparer des 1000 trésors que contient cet endroit, et il passe des moments enchanteurs. À tel point qu'il va tout faire pour se faire punir le plus souvent possible. Mais voilà-t-il pas que les parents, sensibles aux théories éducatives les plus modernes, se disent tout à coup que cette punition est vraiment trop horrible pour un si petit garçon et décident de varier les lieux de punition. Puni salon, puni salle de bain. Simon va tout faire, et je dis bien tout, pour retrouver son kajibi. Le kajibi était une pièce sombre, entre la chambre et la salle à manger. On n'y entrait presque jamais. Quel bric-à-brac là-dedans! Des monticules d'objets entassés. Une roue de vélo, une cage sans oiseaux, un vieux clairon et toutes les affaires de l'oncle Raymond. On trouvait même dans le kajibi le petit Simon, chaque fois qu'il faisait une bêtise plus grosse que lui. Quand Simon vidait une bouteille d'eau minérale dans un petit verre de sa dinette, sa maman criait « Simon, puni kajibi !» et Simon filait dans la petite pièce. Quand Simon nettoyait les dents de son cochon d'Inde avec la brosse de son papa, on entendait aussitôt le papa ordonner « Puni Kajibi !» et Simon courait vers le Kajibi. Si le cochon d'Inde avait su parler, sûrement qu'on l'aurait aussi entendu crier « Puni Kajibi !» Ah, la belle punition! Un véritable bonheur pour Simon. Tranquillement, sans être dérangé, il pouvait jouer du clairon avec une pompe à vélo. Dans son Kajibi, Simon se déguisait aussi en oncle Raymond pour chasser les araignées avec un vieux soufflet percé. En empilant deux mâles et une ancienne chaise de bébé, il pouvait décrocher une paire de jumelles et bien regarder les énormes dents de son peigne. Le Kajibi était pour Simon une formidable cour de récréation au beau milieu de sa maison. Alors, bien sûr, il s'arrangeait pour y aller le plus souvent possible. Un album drôle et tendre pour les enfants à partir de 4 ans. Un personnage dans lequel les petits peuvent se reconnaître. Les aventures extraordinaires, illustrées de façon douce et gaie à la fois. Un vrai plaisir. Et puis, quelle chance pour Simon d'avoir la punition de ses rêves après chaque bêtise. Alors cet album est ancien, on ne peut plus guère le trouver sur le circuit des libraires. En revanche, vous pouvez soit le trouver d'occasion, soit le consulter sur le réseau des bibliothèques de l'agglomération troyenne.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.